Pour cette deuxième séance du webinaire l'épistolaire à l'ère numérique. Donc, c'est un webinaire organisé par le groupe de travail correspondance de la plateforme IMAN. IMAN, qui est une plateforme de traitement et de publication de corpus en environnement numérique, donc publication au sein d'un dispositif technique. Désormais, il y a une quarantaine de projets hébergés sur la plateforme et il y a neuf projets d'éditorialisation de correspondance. Hein. C'est pour ça qu'il semblait intéressant et nécessaire d'engager, de créer finalement un espace d'échange et de discussion. Et puis, puisque cette plateforme, elle repose sur une culture technique et scientifique issue du partage d'un dispositif technique générique. À partir d'un dispositif technique, comment chacun va pouvoir l'adapter selon ses besoins, à la fois disciplinaires ou professionnels. Donc, les expériences éditoriales depuis 2015, donc maintenant 5 ans, ont conduit à la constitution de ce groupe de travail. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace d'échange et d'observation des pratiques numériques pour pouvoir interroger et déterminer la question du renouvellement des études épistolaires et des méthodes éditoriales, bien sûr dans une dimension à la fois méthodologique et épistémologique. Hein, voilà. Donc l'objectif du webinaire, eh bien, c'est bien ça, c'est d'interroger les rapports finalement entre la nature d'un corpus et ses enjeux scientifiques et puis méthodologiques dans une démarche éditoriale, et donc d'échanger autour des principes d'éditorialisation établis par chacun et des phases successives du traitement éditorial au sein d'IMAN. Jean-Sébastien, je te laisse continuer sur le programme.
Donc voilà, je présente effectivement le programme rapidement de ce webinaire. Donc on a souhaité commencer en fait par se placer dans une perspective historique, hein, avec l'intervention de praticiens de l'édition critique papier. Cette première séance ne s'est pas encore tenue finalement pour des raisons pratiques, et certainement qu'on va la faire donc en fin de webinaire, donc on espère peut-être au mois de mai, et pourquoi pas en présentiel, de manière à pouvoir nous retrouver donc dans une séance conclusive. Mais nous avons eu donc une première séance en décembre avec Geneviève Haroche et Bénédicte Obitz de la revue épistolaire, et dans quelques minutes Marie va faire un petit bilan de cette séance. Les séances à venir, donc à partir d'aujourd'hui, sont axées autour des éditions à la fois papier, mais aussi du passage des éditions papier aux éditions numériques. Hein, ce sera le thème de ce webinaire d'aujourd'hui. Et ensuite, nous écouterons d'autres communications en février et en mars autour des projets d'édition numérique, de correspondance numérique au sein d'IMAN. Donc, une présentation finalement des neuf projets de correspondance numérique sur IMAN. Enfin, nous terminerons en fait ce webinaire par une séance consacrée à d'autres outils, d'autres plateformes autres que IMAN, qui permettent en fait d'avoir à disposition des dispositifs techniques et des pratiques éditoriales nouvelles en environnement numérique. Je repasse la parole à Marie.
Eh bien, sur les enjeux au sein d'IMAN, donc bien sûr, on a déjà insisté, donc favoriser les échanges, hein, avec aussi des nouveaux porteurs de projets. L'idée d'établir un référentiel finalement thématique ou scientifique commun, et puis surtout un lieu de réflexion. Hein, on voulait que ce soit un lieu de réflexion régulier. Alors, en lien avec les journées internes IMAN qui sont déjà passées au mois de décembre et les journées publiques IMAN, hein, qui auront lieu le 28 et 29 janvier. Voilà. Et bien sûr, d'essayer de continuer, hein, pour la préparation d'un prochain webinaire. Alors, avant de laisser la parole à nos deux nouvelles interventions et d'avancer dans notre réflexion, de reprendre finalement quelques points qui semblaient importants et qui ont été bien manifestés par Geneviève Haroche. Hein, puisque son panorama des études épistolaires a bien montré que finalement le champ des études épistolaires est jeune, c'est-à-dire que la correspondance ou les correspondances comme objet d'étude, C'est quelque chose qui est assez récent, hein, qui date des années 80. Et elle a distingué trois temps, et je crois que c'est intéressant, nous, de les avoir, de les garder en tête pour la poursuite du séminaire, hein, avec un moment où finalement de définir le temps, ce qu'elle dit 87, 97, le temps des définitions et polémiques. C'est-à-dire vraiment la question, c'est pas évident de définir ce qu'est une correspondance. Après, toute la question d'exploration, les explorations, il y a une période d'exploration thématique. Donc là, on va bien dans un côté comment problématiser ces corpus de correspondance et les étudier pour eux-mêmes. Et à partir de 2008, elle relevait le fait d'un phénomène finalement d'études et d'éditions de grands corpus. Alors bien sûr, avec là, on aura sur les correspondants canoniques, et je crois qu'avec Baudelaire, on a un bel exemple. Et puis avec l'émergence aussi de nouveaux corpus de correspondance. Voilà, et je crois que l'environnement numérique, finalement, aide justement, favorise et stimule ces démarches éditoriales sur des grands corpus et sur ces exploitations de corpus beaucoup plus étendues. Voilà, et Bénédicte Hobitz, autour de sa présentation sur le projet d'édition de la correspondance de Beaumarchais, elle montrait toute cette question et cette tension et cette hésitation des chercheurs entre édition papier et numérique. Et elle a bien mis en évidence finalement toutes les contraintes et les problématiques du numérique, que ce soit dans la constitution et la structuration du corpus, mais aussi toute la question de la distribution de la paracritique, mais aussi de la mise en œuvre d'un projet collectif. Et je crois que ce sont des points que nous aurons l'occasion de rediscuter aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la première séance finalement de retour d'expérience éditoriale sur Imane. Donc là, on a deux très beaux projets avec l'édition électronique de la correspondance de Baudelaire, pardon, par Andrea Cellino et Aurélia Servoni, et ensuite la présentation de Sophie Geoffroy sur aussi un corpus beaucoup moins connu, Holographical Lee, hein, sur les lettres, carnets et manuscrits de Vernon Lee.
Voilà, donc comme vous l'avez compris, la séance va se passer en deux parties. Hein. On aura une première partie consacrée à Baudelaire avec les deux communications d'Andrea Cellino et Aurélia Servoni. Donc le public est invité, hein, à poser des questions sur le fil de discussion et nous répercuterons, hein, les questions à la fin de ces deux interventions. Donc, ben, j'ai le plaisir donc de présenter tout d'abord Andrea Cellino, hein, qui est maître de conférence à l'université Roma Tre, si mon accent italien est bon. Andrea est docteur de l'université Paris-Sorbonne, où il a soutenu une thèse sur le concept de décadence de Baudelaire à Nietzsche, thèse qui est à paraître au classique Garnier. Et il est également responsable donc du groupe Baudelaire au sein de l'ITEM. Aurélia Servoni, elle, est ingénieure au CELF, hein, au Centre d'études de la langue et des littératures françaises, également docteur de l'université Paris-Sorbonne, où elle a soutenu une thèse là, consacrée à Théophile Gautier devant la critique, thèse qui a été éditée au classique Garnier en 2016. Et Aurélia et Andrea ont coédité, parmi d'autres, hein, travaux, le Spleen de Paris, donc chez Flammarion en 2017. Aurélia est également responsable du groupe Baudelaire de l'ITEM. Et donc, nous sommes très heureux, eh bien, de vous laisser la parole pour cette intervention autour de l'édition de la correspondance de Baudelaire.
Je disais que je vais commencer par prendre la parole avant de la laisser ensuite à Aurélia. Je me permets aussi comme ça, d'annoncer la parution d'une autre petite édition qu'Aurélia et moi venons de préparer pour GF Flammarion. Il s'agit d'une édition des Paradis artificiels qui paraît en librairie dans une semaine. Pour ce qui est de la correspondance, elle s'en sert donc dans les activités du groupe Baudelaire que Jean de Sébastien Mac a cité, qui était créé à Paris dans le groupe de l'ITEM en janvier 2019. Dans son journal en 1894, Jules Renard se moquait des hommes de lettres de son temps qui, je cite, prennent copie de leurs lettres afin que la postérité puisse sans trop de mal réunir leur correspondance. Or, l'éditeur de la correspondance de Baudelaire n'est pas confronté à pareille chance. Comme l'observe Claude Pichois en ouverture de deux tomes de la correspondance de Baudelaire dans la Pléiade, un épistolier aime à écrire des lettres, mais pas Baudelaire, qui transfère tant bien que mal sa difficulté créative à la rédaction de ses lettres, s'avouant même malhabile à en écrire. Je cite, « Une lettre me coûte plus à écrire qu'un livre », écrit-il le 16 décembre 1847 à Madame Opic. Baudelaire était persuadé que l'état douloureux, ce sont ces mots, de son esprit se donnait à lire dans ses lettres et que cela le poussait même à les multiplier, mais imaginativement, sans arriver véritablement à coucher sur papier sa pensée. C'est tout l'écart, on pourrait dire, qui sépare la volonté et la faculté. Un écart qui lui paraissait quelque chose d'inintelligible et qui nous fait rêver autour de cette correspondance. Si ces pensées tracassent nécessairement l'éditeur des lettres de Baudelaire, un autre ordre de préoccupation plus général l'occupe également. L'éditeur consciencieux des correspondances sait qu'en quelque sorte il s'inscrit en porte-à-faux devant l'écrivain qui l'édite. Si sa bonne conscience est apaisée lorsqu'il publie des œuvres oubliées, délaissées ou simplement mal établies, il n'en est pas de même généralement devant ce palimpseste de l'intimité que sont les lettres d'un écrivain. Elle nous pose, et en particulier la correspondance de Baudelaire, un dilemme, je pourrais dire, d'ordre presque affectif. Celle de l'éditeur de Fleurs du Mal n'est ni une chronique mondaine, ni un pur témoignage de son atelier créatif. Elle n'offre non plus l'alibi, malgré quelques admirables exceptions, d'être un manifeste poétique. Elle nous met face aux mêmes hantises de son œuvre, aux difficultés et aux embarras personnels et permanents de Baudelaire, à ce que nous connaissons bien depuis longtemps, à ses problèmes d'argent ou d'édition, aux rapports compliqués qu'il entretient avec les hommes de lettres de son temps, à la relation profonde et violente avec sa mère. À l'éditeur de la correspondance de Baudelaire, donc à ce biographe-éditeur, ne reste que la consolation de s'inscrire dans une tradition éditoriale noble qui a illustré les études baudelairiennes. Avant de laisser la parole à Aurélia Servoni, qui présentera notre chantier numérique d'édition, je ferai un petit historique de l'édition des lettres de Baudelaire. Tout d'abord, quelques lettres ouvertes et fragments de lettres sont publiés peu après la mort de Baudelaire, tout de suite après la mort de Baudelaire en 1867. Dans un volume qui paraît en 1872, intitulé « Charles Baudelaire, souvenirs, correspondances », publié à Paris chez l'éditeur Pensebourde, une quinzaine de lettres de Baudelaire sont recueillies. 7 ans plus tard, en 1879, Étienne Charavet publie Charles Baudelaire et Alfred de Vigny, candidat à l'Académie, qui révèle 7 autres lettres, dont 5 à Alfred de Vigny. Mais le premier véritable éditeur de la correspondance de Baudelaire est Eugène Crépet. Alors, c'est admirable, les Baudelairiens le savent bien, que ceux qui travaillent sur l'édition des textes de Baudelaire, ou même dans les études baudelairiennes en général, s'inscrivent souvent dans une sorte de filiation qui arrive jusqu'à Baudelaire. Alors, c'est le cas de Eugène Crépet, dont je vous parlais, qui publie en 1887 un volume intitulé « Œuvres posthumes et correspondances inédites » chez Quentin à Paris. Eugène Crépet avait été le maître d'œuvre d'une anthologie de la poésie française en 1861 et 1862, à laquelle Baudelaire et beaucoup d'autres écrivains de son temps collaborèrent. Donc Baudelaire avait eu des rapports personnels avec Eugène Crépet, des rapports d'ailleurs conflictuels. Dans les œuvres posthumes et correspondances, donc ce volume publié après la mort de Baudelaire, il publiait de nombreux extraits de lettres à Narcisse Ancel, l'auteur de Baudelaire, Armand Fraisse, qui avait été l'un de ses correspondants lyonnais, à Josephine Soulary, 5 lettres à Flaubert, 70 lettres à Poulet Malassi, l'éditeur de Fleurs du Mal, 22 lettres à Sainte-Beuve. Il les accompagne, ces lettres, d'une lettre aussi de Georges Sand à Baudelaire et de lettres de Madame Opic à Asselineau et d'Asselineau à Poulet-Malassi. Eugène Crépet attire l'attention sur l'importance de lettres que Baudelaire avait envoyées à son éditeur, donc Poulet-Malassi, en rappelant que celui-ci se réservait d'en faire une publication partielle, avec partielle souligné. Après d'autres publications plus restreintes, c'est Félix Gautier qui publie entre 1902 et 1906, donc au début du siècle dernier, dans la revue Bleue, la Nouvelle Revue et le Mercure de France, 80 lettres qui recueillent un volume en 1906 aux éditions de la Société du Mercure de France. Le titre est Charles Baudelaire, lettres 1841-1866. C'est le premier volume entièrement consacré à la correspondance de Baudelaire. En 1917, année où l'œuvre de Baudelaire tombe dans le domaine public, Camille Vergniol fait paraître dans la Revue de Paris 130 lettres inédites de Baudelaire à Madame Opic. L'année suivante, Jacques Crépet reprend ces lettres après en avoir vérifié les manuscrits et les publie aux éditions Louis Connard. Ce corpus sera encore publié en 1932 aux éditions Calmann-Lévy sous le titre « Lettres à sa mère ». D'autres publications des lettres de Baudelaire s'en suivent, notamment en facsimilé, comme un numéro spécial du manuscrit « Autographe » consacré à Baudelaire en 1927 par le libraire Auguste Blaiseau. Un projet d'édition des œuvres complètes de Baudelaire par Félix Gautier aux éditions de la Nouvelle Revue Française ayant échoué, Yves-Gérard Le Dantec fait paraître en 1933 un volume de correspondance, c'est le titre, concernant les années 1841-1863. Ce volume apporte une centaine de lettres ne figurant pas dans l'édition de 1906. Mais une étape mémorable est marquée en 1922 par la publication du premier volume des œuvres complètes de Baudelaire établi par Jacques Crépet, fils d'Eugène, donc fils d'Eugène Crépet. L'éditeur rassembla alors une correspondance générale en 6 volumes parus de 1947 à 1953, achevée plus tard par Claude Pichois. Elle comprenait 1092 lettres ou témoins et l'indication de 79 lettres manquantes. Il s'agit d'une édition fondatrice ayant constitué la base de la future édition de la correspondance de Baudelaire par Claude Pichois dans la Pléiade. Elle est conduite sur des critères philologiques, comme Jacques Crépet le rappelle, non sans une pointe d'orgueil, dans son avertissement, je le cite, on s'est appliqué à procurer ici un texte irréprochable, l'établissant chaque fois qu'il était possible sur les pièces originales ou, à défaut, recourant aux sources qui présentaient le plus de garanties. On a révisé du plus près les classements antérieurs, trop souvent suspects. On a vérifié pour chaque date la concordance du jour et du quantième. On a restitué partout les passages omis, etc. L'édition de la correspondance de Baudelaire par Jacques Crépet, malgré ses imperfections, est un outil précieux encore aujourd'hui. Elle est à l'origine de l'édition qui reste aujourd'hui celle de référence. Je veux parler évidemment des deux tomes de la correspondance de Baudelaire, publiés par Claude Pichois, avec la collaboration de Jean Ziegler, qui est le fils de Jacques Crépet, dans la bibliothèque de la Pléiade en 1973. Et dont un nouveau tirage du premier tome apparu en 1993 avec un supplément de 25 lettres est reçu et un nouveau tirage du second tome en 1999. Cette édition contient environ 1420 lettres et témoins. Elle comprend aussi 70 documents comptables et reçus rendant compte des difficultés financières de Baudelaire, mais elle fait l'économie des dédicaces et des envois du poète. Claude Pichon a justifié dans son introduction l'exclusion des lettres envoyées à Baudelaire par un scrupule éditorial et aussi d'opportunité. Celles-ci n'ont pu être insérées, écrit-il en ajoutant aussitôt, et peut-être n'avaient-elles pas à l'être. Il est en effet loisible, écrit-il, de penser qu'une correspondance au sens strict ne s'entend bien que de deux scripteurs et que la polyphonie cache la voix principale, celle précisément qu'on veut entendre et qu'on entendra ici. Claude Pichon donnait à lire ses voix secondaires, qui ont peut-être parfois fini pour rester inaudibles, dans un volume des études baudelairiennes intitulé « Lettres à Charles Baudelaire » et publié en, la même année, en 1973, aux éditions de la Baconnière à Neuchâtel. Cette édition de la correspondance de Baudelaire dans la bibliothèque de la Pléiade, qui fêtera bientôt ses 50 ans, a été plus récemment complétée par deux éditions. Les Nouvelles Lettres chez Feuillard, publiées en 2000, où Claude Pichon donne le texte de 75 lettres et documents inédits de Baudelaire. Les Lettres à sa mère, c'est le titre, chez Manutius, publié en 2017, établi par Catherine Delon, recueillant les 350 lettres de Baudelaire à sa mère, Madame Opic. En outre, depuis 15 ans, d'autres lettres auparavant inconnues de Baudelaire ont fait l'objet de présentations ponctuelles, en particulier dans l'année Baudelaire. D'autres encore restent inédites. Ce court excursus rend compte, il me semble, de la lente et périlleuse conquête éditoriale qu'implique la publication de la correspondance d'un auteur moderne. Une telle édition est susceptible de se compléter et de s'enrichir sans cesse, en rendant nécessairement incomplètes les éditions passées. Les éditeurs de correspondance pourraient ainsi déplorer à leur compte cette loi de l'art que Virgile a formulée, que Baudelaire a fait sienne et que Victor Hugo a généralisée. Pendent opera interrupta. Les travaux interrompus restent en suspens. Dans Notre-Dame de Paris, on lit que les grands édifices comme les grandes montagnes sont l'ouvrage des siècles. Souvent, l'art se transforme, qu'il pende encore, pendent opera interrupta, il se continue paisiblement selon l'art transformé. Il s'agissait donc pour nous de nous placer dans le sillage de la tradition baudelairienne et d'offrir une nouvelle édition fiable et complète, mais complète sur de nouvelles bases de la correspondance de Baudelaire. Avec le projet Baudelaire numérique et avec ce jalon qu'est l'édition électronique de la correspondance de Baudelaire, nous nous proposons de relever le défi lancé en 2000 par Claude Pichon, qui regrettait le destin de correspondance voué à rester à tout jamais inachevé. Destiné à accueillir les nouveaux documents qui apparaissent régulièrement dans les ventes publiques, son ambition est de promouvoir l'inachèvement ouvert et perfectible de l'édition électronique et de contribuer à une meilleure connaissance des écrits et de la vie de Baudelaire. Je laisse donc la parole à la co-responsable de ce projet, Aurélia Cervoni, qui vous montrera plus en détail les principes de notre travail d'édition. Et je vous remercie de mon côté, du moins.
Merci Andrea pour cet historique de la tradition éditoriale de la correspondance de Baudelaire. Alors je vais vous parler de mon côté de la mise en œuvre du projet d'édition numérique de cette correspondance sur IMAN. Donc ce projet de correspondance numérique, d'édition de la correspondance, donc c'est la première pierre d'un projet plus vaste, un Baudelaire hypertexte qui comprendra d'ici une dizaine d'années, nous l'espérons, une édition numérique des œuvres complètes de Baudelaire, y compris son œuvre du traducteur qui est encore trop souvent considérée comme un appendice, l'édition numérique de la correspondance donc, une bibliographie de la critique sur Baudelaire depuis les origines jusqu'à aujourd'hui et qui sera constamment actualisée au fil des publications. Et enfin, une galerie iconographique qui rassemblera les portraits de Baudelaire et les illustrations que son œuvre a pu inspirer. Ça nous fait donc beaucoup de sujets pour de futurs séminaires sur les humanités numériques. Alors, le projet d'édition de la correspondance, je vais vous en présenter les enjeux. Ce projet, donc, il est né d'un constat. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'édition complète et fiable de la correspondance de Baudelaire, encore moins d'édition numérique. Sur un corpus de 1500 lettres de Baudelaire, il n'y a que 500 lettres qui sont accessibles en ligne actuellement, dans le texte donné par une édition de 1907 publiée au Mercure de France. Ce texte est d'ailleurs assez mal établi, des phrases entières ont disparu de certaines lettres, oubliées, non déchiffrées, peut-être censurées. Alors, notre projet, il a trois objectifs. D'abord, aboutir à une saisie informatique de l'intégralité de la correspondance de Baudelaire, qui permettra de faire donc une recherche plein texte dans le corpus et dans les métadonnées via le moteur de recherche IMAN. C'est un outil très précieux, qui sera très précieux pour toutes les études qui portent sur le lexique de Baudelaire, par exemple. Notre deuxième objectif, c'est de donner un accès aux facsimilés des lettres, ce que ne permettra jamais une édition imprimée, pour visualiser la mise en page et les particularités typographiques de certains documents. Je vous montre par exemple une lettre de Baudelaire à sa mère, écrite à l'encre rouge, ce qui dramatise un peu le texte. C'est une lettre du 6 mai 56. Vous voyez que Baudelaire souligne le mot « humiliation » pour reprocher à sa mère de ne pas lui avoir écrit, de ne pas l'avoir remercié après la publication des histoires extraordinaires de Poe que Baudelaire venait de traduire précisément. Notre troisième objectif, c'est de faire émerger, ou plus modestement, de relancer un beau sujet, Baudelaire épistolier, voilà, dans une perspective qui peut être biographique, historique, stylistique aussi. L'écriture de Baudelaire, la langue de Baudelaire dans ses lettres a fait l'objet de peu d'études jusqu'à présent. Alors, la première étape, ça a été bien sûr de constituer une équipe éditoriale. Notre projet a vu le jour au sein du groupe Baudelaire de l'ITEM. Il s'est adossé à un séminaire préparatoire dont le premier cycle s'intitulait « Éditer Baudelaire ». Donc, ce premier cycle s'est déroulé de février à juin 2019. Nous avons à cette occasion passé en revue un certain nombre de problèmes éditoriaux que soulèvent les œuvres de Baudelaire, les fleurs du mal et les paradis artificiels en particulier, et bien sûr les problèmes que pose la correspondance du poète. L'équipe éditoriale du projet est constituée d'une douzaine de chercheurs, des professeurs, des maîtres de conférences, postdoctorants. Il y a aussi des érudits et des libraires d'anciens. Tout en constituant l'équipe, donc, nous avons pris des conseils à droite et à gauche pour identifier l'outil numérique le mieux adapté à ce projet. Et nous sommes donc arrivés sur Inman dans ce contexte. Donc, la première étape de nos travaux, ça a été, la deuxième, ça a été la constitution du corpus. Alors, comme vient de le rappeler André, le corpus de lettres de Baudelaire, il comprend environ 1550 lettres rédigées entre 1833 et 1866, adressées à plus de 250 destinataires. Parmi ces destinataires, il y a des proches de Baudelaire, sa mère, ses maîtresses, ses amis, son éditeur, ses créanciers, son notaire. Il y a aussi des lettres, il écrit aussi à des écrivains, des artistes, des journalistes, des figures du tout Paris de l'époque. À ces lettres de Baudelaire, il faut ajouter un corpus de 211 lettres adressées au poète. Donc au total, nous avons un corpus de 1800 lettres à éditer. Alors pour rassembler l'ensemble du corpus, nous avons commencé par dépouiller les éditions imprimées existantes. Je reviens un petit peu sur ce que disait Andrea. Donc d'abord, les deux tomes de la correspondance de Baudelaire publiés par Claude Pichois et Jean Ziegler dans la bibliothèque de la Pléiade. Un nouveau tirage du tome 1 apparu en 1993 avec un supplément. Voici donc la Pléiade. Nous avons ensuite dépouillé un volume de nouvelles lettres publié chez Fayard en 2000. édité par Claude Pichois. Donc ce volume comprend 75 lettres et documents qui étaient alors inédits, qui ne figuraient pas dans la Pléiade. Pour les lettres de Baudelaire à sa mère, nous nous référons à l'édition établie par Catherine Delonce, qui est membre de notre équipe. Ce volume recueille les 350 lettres de Baudelaire à Madame Hopic. Par ailleurs, bon, il y a un certain nombre de lettres qui continuent à sortir dans les salles de vente. Elles ont fait l'objet de publications ponctuelles, par exemple dans l'année Baudelaire, notre revue annuelle d'études baudelairiennes. Voilà. Pour les lettres à Baudelaire, nous avons utilisé un volume de lettres à Charles Baudelaire, publié par Claude Pichois et Vincent Pichois, en 1973. Voilà, là aussi, le voici. Là aussi, il y a des lettres inédites qui sont apparues depuis. Le résultat de ce travail d'inventaire, donc du dépouillement de ces volumes, nous l'avons rassemblé dans un tableau Excel que nous avons livré à Richard Walter et qui a abouti à la création d'une fiche de métadonnées par lettre. Ce premier travail nous a permis au passage de corriger quelques erreurs de datation et même quelques erreurs relatives à l'identité de tel ou tel destinataire. Alors, parallèlement à ce travail d'inventaire des lettres, nous avons entrepris une recherche iconographique assez lourde, c'est-à-dire que nous recherchons de manière systématique dans les facsimilés des lettres de Baudelaire dans les catalogues de vente. Voilà, je vous en montre deux. Certains de ces catalogues étant relativement anciens et assez difficiles. Des membres de l'équipe se rendent aussi régulièrement dans les salles de vente afin de photographier sur place les lettres qui sont exposées, prêtes à être vendues. Alors, j'en arrive maintenant à la saisie des métadonnées sur IMAN. Nous avons, dans un premier temps, retenu un nombre relativement réduit de métadonnées. Dans un souci d'efficacité pour essayer de faciliter le travail de l'équipe. Voilà. Je vous propose de les passer en revue rapidement. Donc, il y a une dizaine de métadonnées, une dizaine de champs que nous remplissons pour chaque lettre. L'auteur du document, bien sûr, la date, le titre que nous donnons au document, le lieu, c'est-à-dire le lieu ou la ville où a été rédigée la lettre, Paris en général. Le destinataire de la lettre, les sujets, donc les mots-clés. Voilà, nous essayons de donner le maximum de mots-clés pour chaque document. La localisation du manuscrit, si c'est une institution, nous donnons l'adresse. La description matérielle du document, nous signalons ici le nombre de feuillets, les dimensions, s'il est possible de mesurer le document, la présence d'une enveloppe, d'un document joint, d'un dessin, toutes les particularités matérielles de l'objet. La langue du document, il est intéressant de souligner que Baudelaire emploie un certain nombre de mots étrangers, de mots anglais, donc ça pourra servir les futures études lexicales. La référence de publication, voilà, dans la Pléiade ou dans l'année Baudelaire, dans les nouvelles lettres, et évidemment la transcription. Donc voilà ce que donne l'édition d'une lettre à l'écran. Donc en l'occurrence, c'est une lettre de Baudelaire au poète parnassien Auguste Lacossade. Elle est datée du 18 mars 61. Elle a été éditée pour la première fois dans l'année Baudelaire numéro 20 en 2016. La référence de la publication est là, en bas à droite. La localisation précise de l'autographe est inconnue, il est probablement conservé dans une collection privée. La description matérielle du document signale la présence d'une enveloppe. Alors les mots-clés, vous ne les voyez pas, ils sont sous la rubrique folio. Bon. Alors pour ce qui est de la transcription, nous avons commencé à travailler dans la perspective d'une édition diplomatique. Le texte, je vous montre une autre transcription, voilà en gros plan. Le texte, autant que possible, est établi à partir du fac-similé. Ça permet de corriger un certain nombre d'erreurs d'établissement du texte qui peuvent traîner dans les éditions actuelles. Nous ne normalisons pas la typographie, nous n'harmonisons pas l'orthographe, nous ne corrigeons pas les fautes éventuelles qu'on signale néanmoins avec un « ainsi » qu'entre crochets. Notre protocole est assez simple. les signes kabbalistiques qui apparaissent ici et là, ce sont les balises destinées à faciliter la mise en page et qui feront ultérieurement l'objet d'un remplacement automatique. Les dollars signalent les alinéas, les euros, les lignes de blanc. On indique les ratures à l'aide de caractères barrés et entre chevrons, les mots ajoutés à l'interligne. Voilà. Si le facsimilé n'est pas accessible, nous établissons le texte d'après l'édition de la Pléiade et pour les lettres de Baudelaire à sa mère, d'après l'édition établie par Catherine de Lons chez Manutius. L'intérêt de se reporter au manuscrit pour établir le texte, c'est de mettre en évidence les variantes, car il y en a dans les lettres de Baudelaire, et ça n'a pas toujours été fait dans les éditions existantes. Voilà, un bel exemple, par exemple, c'est dans le brouillon d'une lettre à Fernand Desnoyers de 1853 ou 1854. Baudelaire se moque dans cette lettre des poètes de la nature. Cette lettre contient le texte de deux grands poèmes urbains des Fleurs du Mal, Le crépuscule du soir et Le crépuscule du matin. On voit par exemple, voilà, au milieu de l'écran, que Baudelaire a retouché sa phrase à deux ou trois reprises. Il a tâtonné pour aboutir, pour trouver l'expression « légumes sanctifiés », qui est une provocation à l'égard de son correspondant, Fernand Desnoyers, qui lui était un amoureux de la forêt de Fontainebleau, et qui demandait à Baudelaire, poète de la ville, s'il en est, un texte sur les beautés champêtres. Alors un mot pour finir sur les prochaines étapes du projet. D'abord, l'ouverture progressive des collections au public. Nous envisageons de mettre en ligne dès le mois de mars un échantillon d'une centaine de lettres. Et nous espérons ensuite poursuivre la mise en ligne du corpus tout au long de l'année 2021. Et puis en 2022, nous essaierons de lancer l'annotation, une annotation qui se fondera sur des liens hypertextes, sur des ressources iconographiques, en tirant parti de toutes les ressources qu'offre IMAN dans ce domaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous pouvons passer aux questions.
Voilà, merci beaucoup pour ces deux interventions. Qui était bien sûr passionnante. J'ai trouvé vraiment intéressant ce que dit Andrea sur finalement cette filiation des éditeurs de la correspondance de Baudelaire, hein, qui part d'une tradition finalement très ancienne puisqu'elle débute juste après la mort de Baudelaire, et que voilà, et que effectivement nous en tant qu'éditeurs de correspondance aujourd'hui en environnement numérique, on se place aussi dans cette filiation finalement, et c'est assez finalement assez vertigineux, hein. Il y a une responsabilité finalement qui est la nôtre, hein, de tout à la fois de reprendre le travail qui a été fait, hein, de le valoriser, mais aussi d'en faire autre chose, d'en faire un outil un peu différent, hein. Donc on a vraiment une responsabilité importante par rapport à ça, et voilà, et donc on est heureux de ce projet numérique sur IMAN, eh bien, commence à prendre forme, parce que vous avez quand même un corpus qui est important, qui donne aussi accès à la correspondance passive, hein, ce qui n'est pas toujours le cas dans les éditions de correspondance. Et je pense toujours à ça quand on travaille sur ces éditions numériques de correspondance, c'est que finalement, on pensait que le numérique allait tuer le papier, en fait. Et en définitive, c'est l'inverse, hein, c'est que justement, par rapport aux éditions classiques de correspondance qu'on peut faire à la Pléiade ou ailleurs, eh bien, le numérique rend la matérialité, en fait, du papier, du support de l'écrivain qui écrit sa lettre, hein, ce que les éditions papier traditionnelles, en général, eh bien, mettaient largement de côté, hein, hormis quelques notes ou bien quelques dimensions, hein, c'était à peu près tout. Hein. Voilà, donc vraiment, le numérique, hein, nous rend l'accès à la matérialité de la lettre, et ça, c'est vraiment une des forces, je pense, de l'édition numérique.
Je pourrais aussi ajouter, bien sûr, en vous remerciant, et absolument, je suis d'accord avec Jean-Sébastien, avec toute cette question, vous avez bien montré cette traçabilité finalement du document, et qui est vraiment décisif, et parfois aussi le rôle de ces éditions papier antérieures, hein, et comment dans les éditions numériques, finalement, on rassemble tous les matériaux disponibles, et faire apparaître ça aussi ce qui est intéressant, on aura l'occasion sûrement pour d'autres corpus d'en parler, la question des lettres fantômes. C'est-à-dire que quand on établit un corpus, on se rend compte des lettres qu'on a et aussi de toutes celles qu'on n'a pas quand il y a des renvois qui apparaissent de l'une à l'autre. Voilà, de maintenir, je vais essayer de faire des liens un peu avec les points qu'il y avait. Encore une fois, on a eu au début, hein, avec l'intervention d'Andrea, la question de la définition du statut, de qu'est-ce que la correspondance et de qu'est-ce qu'une lettre et qu'est-ce qu'il a défini. Et avec un peu cette histoire éditoriale du corpus, et je crois que ça, c'est vraiment décisif pour mettre en place, et on l'a bien vu avec votre exemple, la méthodologie éditoriale, c'est très important, hein, de prendre en compte finalement cette histoire matérielle du corpus et les différents usages, et le nouveau statut de la correspondance passive, c'est-à-dire que se rencontrent finalement les critères d'édition se modifient, surtout la question sur l'intervention aussi sur les lettres, comme l'indiquait aussi Aurélia. On se rend compte qu'est-ce qui était important, par exemple, au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on laissait des détails ou pas. Donc ça, je crois que c'était vraiment important et c'est des points qui intéressent tout le monde. Et voilà. Et puis, donc, dans votre, encore une fois, cette idée que finalement, les sources sur Baudelaire et les éditions et ces petits corpus thématiques qui ont été d'abord édités. Et là, on voit bien comment la correspondance, finalement, n'est qu'au service d'un petit d'un questionnement, finalement, et pour renseigner une enquête, et comment, dans le cas de Baudelaire aussi, de se rendre compte, de voir les liens entre les correspondances, comment elles peuvent éclairer l'œuvre ou pas. Et c'est vrai que, du coup, Aurélia, dans les enjeux que vous avez soulignés, c'est-à-dire la question, le nouvel objet, ce serait de s'intéresser donc à Baudelaire épistolier, et pas seulement comment la correspondance de Baudelaire peut encore nous renseigner sur ou le poète ou le critique d'art. Ou, voilà. Donc, merci beaucoup. Et je terminerai sur la question des principes de transcription qui m'intéresse. Voilà, et ça aussi, c'est une étape encore décisive dans la méthodologie et la question de l'établissement du texte. Donc, c'est vrai que cette idée, on se rend compte aussi comment les principes éditoriaux sont déterminés aussi par rapport au domaine disciplinaire dans lequel on se positionne et on se situe, quoi. Donc, voilà. Donc, ce serait ça pour… je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, moi, simplement, je vais peut-être commencer par une question peut-être un peu, enfin, je sais pas, basique, parce que, en tout cas, on se la pose, nous, quand on édite les lettres de Zola. Et donc, je pose la question pour Baudelaire, parce que je ne le connais pas bien. Mais puisque ces lettres ont été éditées très vite après sa mort, est-ce qu'à l'époque, il y a eu un débat sur l'intérêt de publier ces lettres, ou même sur le droit qu'on a de publier ce qui, justement, relève de de l'intimité, hein. Vous avez parlé de palimpseste de l'intimité. Donc, est-ce qu'il y a eu à cette époque-là, en fait, des personnes qui se sont finalement peut-être scandalisées que l'on publie, en fait, des lettres de Baudelaire ?
Je ne sais pas si. Alors, je te répondrai de façon un peu, si tu veux, oblique, parce que. On a malheureusement, on part d'un grand regret qui est celui d'avoir une grande partie de lettres, un certain nombre de lettres que Baudelaire a écrites, mais très peu de lettres que Baudelaire a reçues. Très probablement parce que Baudelaire lui-même ne les conservait pas. Et une partie de lettres même ont été détruites. C'est le cas par exemple des lettres qu'il a échangées avec Jean Duval, non, la célèbre Céline des Fleurs du Mal, qui a été le grand amour, en tout cas la maîtresse de Baudelaire pendant plusieurs années. Elles ont été, donc, ça répond à ta question, ça a été décidé avant même le débat, elles ont été simplement détruites, comme on n'a pas, par exemple, la voix de Madame Opic, on n'a pas les lettres de Madame Opic à Baudelaire, donc il nous manque. Ce qui fait aussi le charme, au fond, hein, parce que la beauté d'une correspondance, je pense, consiste aussi dans ce qui est silencieux, ce qui manque. Le visage de Madame Opic, nous ne le connaissons pas, il n'y a pas de photo de Madame Opic, il y a à peine une image où on ne distingue pas son visage à distance devant la maison Joujou dans Fleur, et on n'a pas ses lettres. Donc je dirais que le temps de Baudelaire a choisi pour ses éditeurs nous a peut-être même empêché de... Deuxièmement, je dirais que là aussi, les premiers éditeurs de Baudelaire, dont Crépé, qui était extrêmement scrupuleux, qui était considéré, Jacques, je veux dire, comme le prince de Baudelaire encore aujourd'hui, il s'appelait le plus grand des Baudelaireens parce qu'apparemment, il était très grand. Il était même plus grand que moi, donc je ne pourrais pas être le plus grand de Baudelaire. Donc il avait un vrai respect pour l'époque, scrupuleux pour le document, mais on sait aussi qu'il avait quand même supprimé des passages. Hein. On l'a constaté en travaillant, parfois il y a une petite censure, parce que ça ne pouvait pas passer. Alors on a eu par exemple récemment, on a vu l'apparition d'une lettre curieuse où Baudelaire, enfin très crue, où Baudelaire fait référence à la sodomie, fait une blague assez, disons, aujourd'hui on dirait même presque sexiste sur la sodomie, et cette lettre par hasard n'avait jamais été publiée. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de vrai débat, que je sache, peut-être il y a certainement eu aussi un débat qu'on ne connaît pas, mais je dirais que il y a eu quand même des choix, oui, qui sont allés dans la direction aussi d'une certaine censure, qui faisait partie aussi de la manière d'établir les textes à l'époque. Parce qu'au XIXe siècle, on ne publiait pas comme on publie aujourd'hui, comme quand on traduisait, on réécrivait. Donc on publiait, le droit de l'éditeur était aussi de retoucher, de censurer, de donner à lire, et pas simplement comme aujourd'hui un bon philologue ou généticien ferait, de respecter entièrement le texte, le document.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur les censures. Effectivement, il y a un certain nombre de lettres qui ont été censurées. Alors, je pense à une lettre qui est sortie, dont le fac-similé est sorti il y a 4 ou 5 ans. On la connaissait depuis la fin du 19e siècle, mais le post-scriptum n'avait jamais été édité. Pourquoi les éditeurs du 19e siècle ne l'avaient pas fait? Alors ce post-scriptum, il concerne Victor Hugo, et Baudelaire écrit de manière très désinvolte, bon ben Victor Hugo, oui vraiment, il m'emmerde. Et il y a donc une censure des éditeurs du 19e, on ne pouvait pas toucher à Victor Hugo, ils ont jugé déplacé de faire figurer cette phrase dans l'édition, la première édition de cette lettre, et il a fallu attendre donc 2015 pour retrouver la trace évidemment de ce post-scriptum, révélateur aussi d'une très forte tension entre Baudelaire et Hugo d'un point de vue esthétique. Bon, il y a beaucoup de sous-entendus là-dessous évidemment. Voilà.
Merci beaucoup. Effectivement, c'est intéressant cette question de la censure. Donc j'imagine que votre édition numérique, elle vient combler ces manques, que vous rétablissez en fait les parties censurées. Et ma question, peut-être pour prolonger ça de manière un peu plus technique, est-ce que vous signalez dans votre édition numérique les différents états d'édition d'une même lettre, en fait, s'il y a des états différents selon les différentes éditions? Est-ce que vous le signalez par une note scientifique ou est-ce que vous signalez par quel dispositif finalement?
Nous indiquons les références des éditions. Nous n'avons pas pour l'instant indiqué les différences notables. Cela dit, pour un cas comme celui que je viens d'évoquer, ça vaudrait la peine effectivement de le signaler.
Oui, je pense que ça peut faire l'objet de signalations ponctuelles. Le faire systématiquement, ça relève plutôt de l'anecdotique de l'histoire de la publication que de la publication elle-même. Donc oui, comme dit Aurélien, si c'est significatif, pas plus. Parce qu'il ne faut pas non plus, je crois, et c'est une opinion personnelle, étouffer une édition sous des données qui, au fond, finiraient pour distraire le lecteur. Parce qu'il faut quand même donner une lisibilité. Et donc la lisibilité, parfois, se passe aussi par la sobriété de la publication.
Oui, je suis tout à fait d'accord, hein, d'ailleurs. Et justement, le fait d'avoir fait ce choix, en fait, d'avoir un nombre de métadonnées limité. Je trouve ça très intelligent finalement parce que ça donne l'essentiel, hein, et effectivement ça permet de ne pas noyer le lecteur qui parfois est un lecteur de hasard en fait, hein, qui peut arriver sur une édition correspondance sur Internet, hein, de ne pas le noyer en fait dans tout un tas effectivement de données qui ne vont pas l'intéresser de prime abord. Marie va certainement poser d'autres questions. J'aurais encore peut-être une question sur le plan pratique, en définitive. Une question qui d'ailleurs va faire l'objet d'une table ronde lors des prochaines journées publiques IMAN. C'est comment on travaille avec une équipe sur IMAN, avec 12 personnes, hein, si j'ai bien compté. Comment cette équipe travaille? Comment elle a appréhendé l'outil IMAN? Est-ce que l'outil de transcription avec les balises TEI, est-ce que c'est quelque chose qui a été pris facilement en main par l'ensemble de l'équipe?
Alors, les membres de l'équipe ne travaillent pas tous à la même vitesse. Certains sont allés se former dans les ateliers IMAN. D'autres avaient plus de facilité, donc ils ont débarqué sur la plateforme sans trop de problèmes. Là, alors au départ, on avait un groupe de 10 personnes face au corpus. Maintenant, on envisage de travailler plutôt par petits groupes, de mettre en place des petits groupes collection par collection, par ensemble de collections, voilà, pour essayer d'accélérer maintenant la saisie, la mise au point des textes. Donc, effectivement, après un an et demi de pratique, la mise en place de petits groupes nous paraît une étape à franchir pour faire avancer le chantier.
Je n'ai pas, j'ai pas forcément une question particulière, mais puisque j'avais cette idée de comment organiser, puisque là, on va plus vers la gestion de projet, c'est vrai que la question d'établir des principes minimaliste d'édition, bien sûr qu'il y a l'idée de ne pas surcharger une édition ou de ne pas même surinterpréter des événements, des phénomènes comme la censure ou quoi que ce soit. Et puis il faut se rendre compte en termes de stratégie aussi éditoriale et l'idée qu'il puisse donner finalement une première version rapidement accessible, ce sont des principes aussi minimaliste pour qu'il puisse être faisable. Hein, c'est la question aussi, la difficulté, on peut repérer ou signaler un phénomène, par exemple le phénomène de la censure, sans se lancer dans une traque exhaustive, et même si ce serait intéressant à faire, mais en même temps, c'est de pouvoir montrer un phénomène et ça peut intéresser à un moment donné un chercheur en histoire de l'édition, justement, et pouvoir ajouter finalement il y a plusieurs étapes finalement dans ce traitement éditorial. Voilà. Donc, non, et je crois que peut-être nous pouvons passer à la communication suivante. Sauf s'il y a des questions dans le chat, peut-être ou...
Non, toujours pas de questions. En tout cas, merci à Andrea et Aurélia pour ces deux belles communications.
Oui, qui ont permis de manifester.
On n'a pas entendu Andrea.
Je disais que peut-être je peux moi-même me poser une question par chat, comme ça montrera que ça a suscité de l'intérêt.
Voilà. Rassurez-vous, les questions du chat sont supprimées à la fin de la séance, donc il n'y aura pas de travail. Donc je laisse Marie présenter Sophie.
Alors, Sophie, on est très heureux de recevoir Sophie aussi, qui est dans les membres de l'équipe IMAN. Elle me corrigera, mais depuis 2017, je crois. Alors, elle arrangea. En tout cas, Sophie, donc normalienne, agrégée d'anglais, et elle est professeure à l'Université de la Réunion. Voilà, professeure de littérature, et elle mène donc un projet, donc le projet HOL, et Bernard Lee depuis un moment donné, et que le projet numérique finalement n'est qu'un pan de tout un ensemble finalement à la fois d'édition, d'exploration et d'exploitation d'un fonds particulier, parce que ce sont d'abord, après on voit comment le traitement des auteurs masculins dès le 19e siècle hein, ont eu tout de suite finalement ont pu bénéficier d'un traitement spécifique et d'un intérêt, et parfois, finalement, comment des auteurs moins reconnus dans la grande histoire littéraire et des écrivains femmes, voilà, ont pu être plus négligés. Et c'est un projet, donc, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elle a mené une édition papier, une publication récente de l'édition de la correspondance de Vernon Lee, et aussi une ouverture du site au public, Iman, récente, autour de cette correspondance. Et je laisse Sophie le présenter.
Merci beaucoup, Marie. Ravie d'être là pour présenter ce travail. Et donc, cette base de données, Holographically, Vernon Lee, Violette Paget, 1856-1935, Letters, Notebooks and Manuscripts, lettres, carnets et manuscrits. Hall, pour plus de facilité, est une bibliothèque virtuelle à des fins de sauvegarde en même temps qu'une base de données. C'est donc à la fois un outil de recherche et un objet de recherche. Elle a pour objectif de permettre un accès plus simple aux travaux et aussi aux lettres de Vernon Lee, dont le nom de naissance était Violette Paget, née à Boulogne-sur-Mer en 1856 et morte à Florence en 1935. Intellectuelle engagée, polygraphe, oratrice d'exception, c'était aussi une grande épistolière, une voyageuse et une femme de réseau. Elle a été active dans le champ de la littérature, mais aussi de l'histoire de l'art, de la musicologie, très érudite et saluée par les plus grands comme Robert Browning pour l'originalité de ses approches et notamment de son approche génétique et voire évolutionniste des arts. Elle a aussi été pionnière en psychologie expérimentale. Sa théorie de l'empathie et de l'imitation interne préfigure la théorie des neurones miroirs. Sa définition de la construction sociale de l'identité sexuelle fondée sur une analyse socio-économique du travail trace dès 1900 les contours des études du genre. L'ensemble de son œuvre est inclassable, tout comme sa connaissance intime des relations internationales, son action politique en faveur de la paix, sa contribution décisive au projet européen pendant la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres. Tout ceci reste méconnu malgré des travaux récents portant sur ces textes publiés. Je reprends donc sur la nécessité de passer par l'analyse des documents manuscrits qu'elle a produits dans son espace intime, cet espace où Violette Paget cohabite avec Vernon Lee. Sa correspondance en quatre langues, ses carnets de travail, ses notes de lecture, ses journaux intimes, ses brouillons d'œuvres achevées ou inachevées, les extraits d'autobiographie, ses manuscrits, les marginalia, les photographies, les cartes postales constituent un corpus incontournable pour une meilleure connaissance de l'élaboration de l'œuvre, envisagée comme un processus d'intégration et de transformation de l'expérience vécue, sentie, agie. J'évoquerai tout d'abord la recherche, ma recherche d'abord littéraire, donc de la recherche littéraire à l'édition imprimée. J'appartiens à une génération de chercheurs qui a fait ses débuts au temps où l'on avait accès aux archives et autres rare book sections que sur recommandation, munis uniquement d'un crayon de bois. C'est la génération du tout papier. La recherche sur Vernon Lee était difficile et coûteuse. Les documents accessibles étaient rares et éparpillés dans le monde. États-Unis, Italie, France, Grande-Bretagne, etc. Impliquant des voyages et des séjours à l'étranger rarement financés en raison d'une valorisation moindre des recherches sur les autrices. Le plurilinguisme de Vernonnier rendait difficile également le partage d'expériences avec les autres chercheurs, chacun au sein de sa propre sphère linguistique, ignorant les travaux produits dans d'autres langues que la sienne, y compris parfois les textes produits par Vernonnier dans d'autres langues. Les règles de copyright et l'embargo posé par Vernonnier elle-même sur ses documents personnels, différemment respectés selon les pays, ont en outre retardé les recherches en Europe, notamment en France et en Grande-Bretagne, alors que dans le même temps, le Canada et les États-Unis numérisaient quantité de livres de Vernonnier. Ces conditions ont imposé un constant renouvellement des méthodes de recherche et de communication de la recherche. Et j'ai souhaité, dès que possible, rassembler en une même archive et mettre à disposition des chercheurs des documents dormant au fond des lieux de dépôt, parfois menacés de disparition. Sortir de l'ombre les documents invisibles participe d'une volonté de ma part de désinvisibiliser l'histoire intellectuelle d'actrices et d'acteurs marginalisés dans l'historiographie traditionnelle pour des raisons diverses, ici de genre, de pacifisme et même d'orientation sexuelle. Vint ensuite le temps des blogs, qui a permis paradoxalement l'incarnation de la recherche et son déploiement en réseau. C'est en effet le virtuel qui a permis à la recherche sur Vernonnier de se désenclaver, de se décloisonner, de s'incarner. S'incarner car, lors d'un colloque intitulé Vernonnier Literary Revenant, la diaspora des Irlandisans, regroupée en une galaxie de blogs sous la houlette de David Rose, m'a suggéré de développer un blog au sein de cette galaxie, The Sibyl, A Journal of Vernonnier Studies, donc une revue en ligne internationale de recherche sur Vernonnier. Grâce à The Sibyl, la famille qui avait acheté et qui vit désormais dans la villa Il Palmerino à Florence, la villa de Vernonnier, a pris contact avec moi, repris contact avec moi, et ces liens forts et durables ont permis de développer toute la recherche et encore aujourd'hui. Stefano Vincieri et Federica Paretti découvrent en 2011, tout ceci était en 2003, en 2011, ils découvrent en Normandie les films d'André Nouflard où l'on voit Vernonnier. C'est par eux que je rencontre leur fille, la fille des peintres André et Berthe Nouflard, Geneviève Nouflard. Geneviève Nouflard et l'association Culturale Il Palmerino me chargent à ce moment-là de réaliser un documentaire à partir des films d'André Nouflard. Geneviève, alors âgée de 91 ans, va désormais collaborer à ma recherche en duo avec mon mari et partenaire de recherche, Gilles Pasquier. En 2012, il y a un tournant. La découverte d'un trésor dans un grenier en Normandie a freiné le long. C'est un corpus exceptionnel, découvert dans des conditions rocambolesques, qui va imposer un renouvellement total des méthodes de recherche. Les archives André et Berthe Nouflard sont un terrain vierge qu'il faut explorer avec sa gardienne Geneviève Nouflard. Volumétrie importante, multiplicité des formats et des supports, problèmes de conservation, absence d'inventaire, archives sur deux lieux distants et toujours in situ, absence de description et de transcription, tels sont les défis à relever. Il faut pourtant faire vite. Geneviève Nouflard a une mémoire prodigieuse, mais elle est déjà très âgée et n'a rien prévu quant au devenir de ce trésor au milieu duquel elle vit, devenir en termes de dépôt dans une bibliothèque. Le fonds de correspondance active et passive Nouflard comprend plusieurs centaines de lettres, environ 500 lettres, et cartes postales échangées entre Miss Paget, Vernonnier, et Berthe et André Nouflard. 25 carnets de notes manuscrites, rédigés entre 1914 et 1919, partiellement recopiés en 1925. Le journal où Berthe Nouflard consignait chaque jour ses conversations avec Vernonnier au cours de l'été 1934, avant la mort de Vernonnier, ainsi que le journal qu'elle a rédigé après la mort de Vernonnier en 1935 à 1936, ainsi que d'autres lettres, des lettres à Mathilde Hecht, qui est une des tantes de Marcel Proust, et à sa fille, Suzanne Pontremoli, des lettres d'Irène Forsmos à Madame Hecht, copiées par Berthe Nouflard. À cela s'ajoutent les agendas d'André Nouflard sur l'histoire de sa famille et les amis célèbres de la famille, ses films donc, les lettres adressées à Marie Duclos, les livres ayant appartenu à Vernon Lee, dédicacés par elle, ainsi que deux manuscrits autographes, Oak of Oakhurst et Ein Fühlung, un moulage en plâtre de sa main gauche et nombre de portraits de Vernon Lee par Berthe Nouflard. Ce sont donc des archives littéraires et artistiques particulièrement intéressantes. Le traitement de ces objets est réalisé en 2012 dans l'urgence. En quelques jours, nous faisons des photos numériques des lettres de Vernon Lee. Ce sont ces photos numériques qui ont été uploadées dans Hall. Bien nous en a pris, car depuis la disparition de Geneviève Nouflard en 2016, les lieux ont été transformés ou ne sont plus accessibles. Il en va de même des archives. En septembre 2012, c'est la première présentation de ce corpus au congrès Violette del Palmerino à Florence, avec l'ébauche d'une cartographie des liens du cœur que je présente sur PowerPoint à ce moment-là. Amanda Gagel est présente. Elle m'invite à éditer avec elle l'édition papier de la correspondance de Vernon Lee pour les éditions Pickering, éditions qui seront rachetées par Routledge. Donc le contrat est signé avec Routledge pour 3 volumes prévus alors. Aujourd'hui, nous en prévoyons 4 ou 5. Je transcris particulièrement les lettres françaises, ce qu'on considère comme les lettres françaises de Vernon Lee, notamment les lettres à Mary Robinson, déposées à la Bibliothèque nationale de France aux manuscrits, qui sont en fait rédigés en anglais, ceci en présentiel uniquement durant de longues heures. Puis il faut acheter des scans, des PDF noir et blanc de cette correspondance et que Gallica rendra public des années plus tard et en haute résolution cette fois. En 2012, The Sable Journal of Vernon Lee Studies, ma revue devient un journal en ligne à part entière. J'évoque ceci car... En réalité, le développement de cette recherche, de cette édition papier et de l'édition numérique qui suit est inséparable, c'est un processus qui est inséparable de la constitution d'un réseau de chercheurs, de la structuration de ce réseau de chercheurs et de la fédération de ce réseau autour d'un projet commun. En 2013, je découvre les humanités numériques lors du symposium de la Society for Textual Scholarship à Chicago, où Mandy Gagel m'a invité, ainsi que Christa Zorn, qui vient d'éditer les lettres échangées entre Vernon Lee et Irène Forsmos, son amie allemande. Amanda Gagel, elle, fait une petite édition numérique des lettres échangées entre Vernon Lee et H.G. Wells. En 2014, je fonde l'International Vernon Lee Society à Paris qui permet la structuration de ce réseau. En 2016, lors du décès de Geneviève Nouflard, l'héritier et le fonds de dotation Nouflard me chargent de réaliser l'inventaire des archives Langweil à Lévis-Nouflard, celle de Paris et de Fresnay-le-Long. Mission morale, sans moyens logistiques ou financiers. Comment faire? La solution, eh bien, tout simplement, les humanités numériques vont me les fournir. J'intitule alors mon projet Vernon Lee Calendar sur le modèle du Henry James Calendar, qui est un site d'édition numérique de la correspondance de Henry James. La Vernon Lee Archive au Colby College aux États-Unis est encourageante et fournit des scans des lettres. Dans le même temps, elle développe son propre outil numérique, son propre site, qui est désormais indispensable pour réaliser l'édition papier. Nous l'utilisons au quotidien. En même temps, Gallica met également en ligne, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les lettres à Mary Robinson, puis celles à d'autres destinataires, notamment celles à Madame Blanc, qui n'est autre que l'essayiste et traductrice et auteur de textes fantastiques Théo Benson. et d'autres autrices. 2016, le volume 1 des lettres, le volume 1 de l'édition papier paraît chez Routledge. En 2020, donc récemment, le volume 2 est paru. Le volume 3 est prévu pour 2023 et le volume 4 pour 2024. Et il y a 3 jours, Holographically a été ouverte. Disons que c'est une étape, une première étape dans l'ouverture de cette base de données. Alors, l'édition papier, les principes éditoriaux de l'édition papier indiquaient qu'il s'agissait de fournir l'édition intégrale, même si ça s'intitule Letters, ce sont les lettres disponibles. Donc il s'agissait d'éditer, faire une édition intégrale des lettres de Vernon Lee. Il s'agit du premier projet au monde. 2 recueils de lettres choisies existent. La première, édition limitée à quelques exemplaires, qui n'est pas une édition critique, des Letters Home, publiée à titre privé par Irene Cooper Willis en 1937. Ce n'est pas non plus une édition intégrale, elle comporte des coupes importantes. La deuxième édition est l'édition critique, publiée par Christa Zorn et Herbert Seeberg en 2014, donc la correspondance anglo-allemande de Vernon Lee et Irene Forth-Moss pendant la Première Guerre mondiale. C'est une correspondance ciblée sur une période et une correspondante qui comporte 100 lettres. Pour l'édition Routledge, nous avons publié la transcription intégrale linéarisée de toutes les lettres aujourd'hui accessibles, issues de plus de 40 archives publiques ou privées dans le monde. L'ensemble représente au total environ 2500 lettres à ce jour répertoriées, accompagnées d'un appareil critique important, des notes, index, bibliographie, références, notices biographiques, etc., etc. C'est aussi une édition quadrilingue, puisque les lettres originales, rédigées dans les 4 langues couramment utilisées par Vernon Lee, ont été transcrites et traduites en anglais. J'ai traduit les lettres du français vers l'anglais, Christa Zorn les lettres de l'allemand vers l'anglais, Crystal Hall de l'italien vers l'anglais. Cette édition permet de, elle fournit la base de ce qui sera Hall en précisant les objets de recherche et les éléments à intégrer dans la base de données, notamment les mots-clés, notamment. Mais naturellement, le papier a ses limites que la recherche ne connaît pas, la recherche se poursuit, notamment sur les nouvelles découvertes de manuscrits, notamment le fond Nufla. D'où la deuxième étape, de l'édition imprimée à l'édition numérique grâce à la recherche. Le choix de l'édition numérique est issu du constat évident des limites du support papier face à des contenus et des données qui sont d'abord en évolution constante. La découverte de nouveaux fonds est toujours possible, comme on l'a vu avec le fonds Nufla ou avec le fonds Irene Forth-Moss. Le numérique permet aussi d'intégrer la correspondance passive de Vernon Lee. Il permet, comme l'a évoqué tout à l'heure Jean-Sébastien Mack, de donner à voir et à sentir les objets, les lettres, carnets, manuscrits, dans leur matérialité. Paradoxalement, la dématérialisation permet de donner accès à cette matérialité de l'objet. Hall permet aussi de visualiser les relations, afin de représenter la place centrale de Vernon Lee au cœur d'un réseau européen amical, intellectuel, artistique, scientifique et politique, et de représenter aussi la circulation des idées et des écrits au sein de ce réseau. Les outils numériques d'indexation et de visualisation permettent de répertorier et de représenter une cartographie des liens du cœur et de l'esprit, même si pour l'instant on ne peut pas, contrairement à ce que je souhaitais au départ, présenter une une présentation génétique, génétique textuelle de ces documents pour l'instant. La dématérialisation et la numérisation permet aussi une démocratisation de l'accès aux archives et de favoriser l'accès aux sources dites primaires, tout en préservant les originaux. Et cela permet par suite de former les étudiants en humanité numérique et de susciter de nouveaux travaux à partir de ces sources primaires et en humanité numérique également. Le projet HOL a été créé en 2018 lors de ma délégation au sein de l'ITEM CNRS-ENS en 2018-2019. Voilà. C'est au sein d'IMAN, avec Richard et l'équipe de IMAN, que j'ai pu découvrir le potentiel de l'outil IMAN, ce qui, contrairement à beaucoup d'autres intervenants et beaucoup d'autres membres du groupe, était pour moi un recyclage, puisque je suis une littéraire et non pas une archiviste. Voilà, donc là, actuellement, alors le bilan que je peux tracer, ma recherche scientifique et le contrat en cours avec Routledge m'ont malgré tout imposé une évolution des principes d'édition de la correspondance de Vernon Lee sur Hall. De manière générale, il s'agit pour Hall de présenter la correspondance active et passive de Vernon Lee, les différents carnets et manuscrits. Hall permet naturellement une recherche par mots-clés, nom, date, lieu de rédaction, lieu de dépôt de l'archive, langue de rédaction et d'autres éléments. On trouve également, vous l'avez peut-être vu, le facsimilé du document et dans de nombreux cas, la transcription. L'évolution due au fait que je suis sous contrat avec Routledge est également due à l'urgence relative qu'il y a à traiter enfin les archives mouflard, en tout cas les documents qui sont restés accessibles, fait que je dois me recentrer sur les archives Langweil à Lévis Mouflard, c'est-à-dire une partie non négligeable du corpus, en imaginant différents supports pour différents usages. Alors, Hall donc présentera de façon prioritaire les lettres échangées entre Vernon Lee et Berthe et André Mouflard. Donc les facsimilés des lettres, les très nombreuses cartes postales avec leur description d'abord, leur métadonnées bien sûr, ceci étant destiné à des usagers, des chercheurs et des étudiants. L'analyse de corpus qui est au fondement de ce site en humanité numérique doit à la suite, bénéficiera par la suite au prochain volume papier de l'édition des lettres, et j'envisage de procéder par une extraction des données enrichies de Hall pour les insérer dans l'édition papier des volumes suivants, les volumes 3 et 4 des Selected Letters of Vernon Lee, afin de les traduire en anglais. Voilà, la première étape, donc Hall, c'est le premier usage. Deuxième usage, deuxième public, c'est donc ce volume 4, 3 et 4, c'est volume 3 et 4 de l'édition Routledge, édition critique papier, à partir du matériau visible sur Hall. C'est un projet en cours avec contrat signé, je l'ai déjà souligné. Le projet parallèle existe bien d'une édition papier, une édition imprimée des lettres croisées de Vernon Lee et Berthe Mouflard, projet comme une dette dont je souhaite m'acquitter envers notre défunte amie et partenaire Geneviève Nouflard. Alors, la recherche is a never-ending process, hein, ne s'arrête jamais et chaque production nouvelle engendre d'autres, de nouvelles réflexions et de nouveaux travaux. Donc, quel sera l'impact de ces deux éditions importantes, des papiers et numériques, sur la recherche sur Vernon Lee? En quoi Hall va impacter la compréhension de Vernon Lee et des textes qu'elle a produits? Il est trop tôt, bien sûr, pour en faire un bilan, Hall ayant été publié il y a 3 jours, mais je ne doute pas d'un enrichissement des connaissances par le décloisonnement de la recherche dite littéraire. Car contrairement à une bibliothèque numérique, Hall permet des recherches qui vont permettre d'élaborer un certain nombre de statistiques qui seront certainement utiles à des chercheurs, non seulement en littérature, mais également en sociologie, en histoire, notamment histoire intellectuelle, histoire sociale, notamment histoire sociale des élites, histoire de l'art, histoire politique, féminisme, histoire des femmes, mais aussi en World Studies, histoire européenne, histoire de la lecture, du tourisme, de la santé, de la puériculture, de l'éducation, et tout sujet traité dans ces archives. Je ne vais pas aujourd'hui développer ce qui a trait aux questions de recherche spécifiques au corpus d'autrice, mais sachez qu'au départ, la question de recherche était celle du passage de Violette Paget à Vernon Lee, ou la fabrique d'une Amazone, pourtant bien ancrée dans une Amazone qui, évidemment, cela indique les recherches dans les études sur les femmes, le sexe et le genre, qui est un domaine très important dans mon champ, dans les recherches anglicistes. Voilà. J'espère avoir montré qu'il s'agit là d'une entreprise, disons, d'une vingtaine d'années, hein, de travail mémoriel autant que patrimonial, puisque nous avons créé des archives vidéo en même temps pour conserver la trace de nos entretiens, des entretiens que nous avons menés avec les personnes témoins qui sont pour une part disparues. Travail patrimonial aussi, dans la mesure où Hall nous permet de faire des expositions virtuelles de portraits et autres objets dont on ne connaît pas encore le destin, le futur destin. Et ainsi, Hall rassemble en un lieu, fût-il virtuel, fût-il hors sol en quelque sorte, un patrimoine en danger. Pour finir, je dirais que en rendant tangible l'importance cruciale de l'écrit intime et de la sphère privée, Hall met indiscutablement en lumière la relation dialectique entre ce qui se joue dans les coulisses, dans les salons, les groupes de parole, les groupes de pression, dans la clandestinité parfois, et le devant de la scène, entre l'histoire avec un grand H et les histoires multiples et destins croisés de celles et ceux qui la font, cette histoire, la vivent, la subissent ou l'influencent, entre history et her story. Je constate par mon expérience pédagogique que c'est précisément ce lien-là qui intéresse les étudiants ou un public large et qui permet d'envisager pour Hall un usage pédagogique large. et autant que un usage scientifique à destination des spécialistes. Voilà, je vous remercie.
Ah, c'est nous, Sophie, qui te remercions pour cette présentation si riche et avec finalement un cas, le cas Vernon Lee. Tu pointes toutes les de nombreuses problématiques et qui se rapportent à des fonds. Alors moi, première chose, c'est comme tu l'as bien souligné, hein, c'est-à-dire ce qui est très intéressant, c'est comment le lien entre édition et recherche, et comment une question de recherche autour de avec une dimension biographique, hein, c'est sûr qu'il y a toujours un lien, là ça permet de souligner, et Andrea aussi a un peu parlé, c'est-à-dire les liens entre l'éditeur de correspondance, hein, et le biographe. Et puis, je crois que ce qui est aussi dans ces liens entre édition et recherche, c'est le numérique qui permet, au travers de ces éditions numériques pour regrouper, rassembler des corpus, on est bien là dans ce processus, hein, de patrimonialisation. Et tu en as vraiment, tu as donné un exemple absolument complet et total. Et aussi dans cette question de pour valoriser et éclairer un fonds et pour mettre en lumière un fonds, comment tu as continué à travailler avec une sorte de témoignage et de continuer même à produire des archives pour valoriser et conserver ces archives. Alors, je reprendrai que quelques points. Donc, c'est sûr que la question aussi, je crois, de ce lien que tu as, et là on voit bien comment tu peux être éditrice, chercheuse et enseignante, c'est-à-dire que tu envisages comment ta propre recherche a permis une édition, et comment cette édition, en tout cas ce projet éditorial, invite à d'autres recherches, et je crois que ça aussi c'est un enjeu du numérique et de la publication en environnement numérique de corpus méconnus ou de nouveaux corpus, c'est vraiment cette idée de d'ouvrir ces corpus à des investigations finalement qui proviennent d'autres domaines, d'autres disciplines. Hein. Et c'est bien ce que tu dis en termes de décloisonnement. Et ça, je crois que c'est vraiment passionnant. Et puis, je crois qu'en termes d'organisation ou comment on est d'éditeur, tu as monté une association il y a un côté un peu, comment dire, de mise en abîme entre le réseau de Vernon Lee qui détermine le réseau que montrent les archives comme ça international, et qui détermine même une recherche comme ça en réseau international. Donc, je crois que c'est vraiment fascinant. Et aussi, cette espèce de... Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi comme témoignage des éditeurs, de l'éditeur de correspondants. Donc, avant, dans le numérique, qui exprimait une certaine solitude, c'est cette sorte d'engagement moral vraiment, et dans cette mission d'édition, de conservation, de valorisation, de médiatisation aussi, à la fois de tes corpus et des recherches. Et c'est vraiment ce lien étroit qu'il y a entre édition et recherche. Et ce que pour terminer, et pour trouver que je trouvais intéressant aussi dans ta conclusion, c'est comment l'édition numérique, et finalement, on n'est plus là dans une sorte de vieux débat des années 2000, ou qu'il y avait une sorte de concurrence entre édition papier et édition numérique. Et là, on est bien dans cette coordination-là. Et je crois en effet que l'édition numérique peut être un espace d'élaboration pour l'éditeur et le chercheur d'une édition papier, avec un appareil critique, finalement, un discours critique qui trouve une autre place et une autre distribution. Merci beaucoup. J'ai du mal en termes de volumétrie, je sais que c'est très important, mais et j'ai eu du mal après à faire le compte, mais on est au-delà de 4000 lettres,
Sophie. Ah oui, certainement, c'est certain, c'est comment dire, le volume 2, voilà, je cherche à la donnée la plus claire possible. Le volume 2 couvre les années 1885 à 1889. Donc, c'est dans 5 ans, et il y a 421 lettres. Voilà. Donc, ça donne une idée de l'ampleur de la correspondance de Vernon Lee. Un autre exemple, ce sont les lettres à Augustine Bulteau. Il y a à peu près 220 lettres à Augustine Bulteau en un an. Voilà. Donc, on est au-delà des 4000 lettres, ça c'est certain. Alors, je suis très prudente, hein, je suis vraiment très prudente, s'agissant de Routledge, puisqu'il y a ce contrat. Il est vrai qu'au départ, j'envisageais Hall comme un lieu où l'archive, comme l'archive totale, hein, l'archive totale qui allait tout regrouper, puisque à ce moment-là, au moment où je l'ai imaginé, du Vernon Lee Calendar, hein, au moment de ce projet-là, il n'existait pas d'archives en ligne. Enfin, la Colby n'avait pas numérisé ses collections, Gallica non plus, enfin, les lettres de Vernon Lee. Nous étions vraiment très, enfin, évidemment, contraints tous de travailler uniquement sur les archives papier. Je précise que il faudrait faire un atlas des chercheurs sur Vernon Lee. Nous sommes vraiment répartis partout dans le monde. Et c'est grâce à Hall que nous pouvons nous regrouper. L'IVLS d'abord, l'association de recherche, International Vernon Lee Society, mais là, Hall donne un objectif précis et fournit une base paradoxalement concrète à nos échanges. Enfin, s'agissant du devoir moral, en fait, c'est aussi de bonheur qu'il s'agit, de bonheur de la transmission, parce que justement, quand on est face à des archives aussi difficiles à dénicher, à trouver, eh bien, il y a deux attitudes possibles, soit l'attitude du dragon gardien de trésor, donc certains archivistes par le passé, à la Corby notamment, ou alors on a envie de partager, c'était mon cas. Donc la dimension affective, oui, je rebondis sur ce que tu disais concernant le débat entre archives papier et archives numériques, comme si le papier garantissait une certaine forme de qualité humaine et de forme de travail traditionnel, de qualité humaine, de communication enfin, à l'ancienne, si j'ose dire, face au numérique qui serait synonyme d'anonymat et de pillage, de je ne sais quelle horreur. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Et en fait, la Sibylle, puis l'IVLS, maintenant Hall, rassemble des familles. Il y a la famille italienne, la Villa I Palmerino à Florence, et puis il y a la famille Nuflard, et puis il y a toutes les autres familles des chercheurs qui sont membres de mon groupe, quoi, mon groupe virtuel. Donc c'est très porteur, et comme est le groupe IMAN d'ailleurs.
Oui, merci. C'est vrai que c'est vraiment, là, dès ton introduction, tu montrais bien comment finalement le numérique était à la fois, tu l'as dit tout de suite, c'est à la fois un objet d'étude, mais c'est aussi un outil de recherche. Et comment ça permet de lutter à la fois de cet éparpillement et des recherches et des archives et des chercheurs. Voilà. Mais
oui.
Merci Sophie pour cette belle intervention, c'était vraiment passionnant. J'en ai enfin beaucoup appris sur Vernon Lee, à ma grande honte, je ne connaissais pas grand-chose. Et j'ai bien aimé aussi voilà, ce que tu dis sur finalement le travail du chercheur, en fait, hein, qui a commencé à travailler avec un crayon et qui finit par faire de la TEI, avec des humanités numériques. Et donc voilà, ça montre aussi que le chercheur, il est aussi dépendant d'une technologie qui évolue, de hasard, de rencontres, que effectivement, parfois faire des photographies dans des mauvaises conditions de documents qui risquent de disparaître ou auxquels on n'aura plus accès, eh bien c'est important de le faire, même si ce n'est pas dans les meilleures conditions, mais parce qu'on est aussi effectivement garant en fait, hein, de transmettre, voilà, on a ce, comme tu l'as dit, ce devoir moral en fait, hein, de transmettre et de démocratiser finalement l'archive, notamment littéraire. Hein. Voilà, tu parles de trésor, c'est formidable. Moi, j'adorerais en fait tomber sur des trésors littéraires comme toi, tu as pu en trouver. Voilà, tu es revenu aussi effectivement sur la matérialité, hein, des lettres, et tu es allé un peu plus loin que moi finalement, parce que moi je parlais de matérialité du papier, et toi tu as aussi parlé de le sentir, le papier. Alors je ne sais pas si sur Iman, on a cette fonctionnalité actuellement, il faudra la demander à Richard Walter, hein, de permettre de sentir le papier des archives que l'on publie. Pas sûr que ce soit encore... encore possible. Simplement, on a eu une question entre les deux interventions, entre Baudelaire et Vernon Lee, on a eu une question sur le chat, hein, qui avait trait au droit d'auteur, en fait. Donc finalement, Sophie, toi tu en as déjà un peu parlé sur comment tu, j'imagine, vous avez passé un contrat avec l'éditeur papier de la correspondance, donc tout ça est j'imagine, bien encadré. Est-ce que effectivement pour les collègues côté Baudelaire, est-ce que il y a eu des questions de droit avec les ayants droit de Baudelaire, avec les ayants droit ou avec les éditeurs passés? Et simplement, parce que donc là, j'essaye de faire une question globale, hein, pour les trois intervenants. Et à propos de Vernon Lee, je vois que Sally Blackburn est connectée. Donc, je ne sais pas si elle veut ensuite prendre la parole pour dire quelques mots. Mais je vais répondre d'abord sur les droits.
Alors, pour les droits, alors, on va les demander aux institutions publiques, quand les documents sont conservés dans les bibliothèques, dans les fonds publics. Pour les éditeurs, à partir du moment où on revoit les textes à partir du manuscrit, on s'écarte du texte établi par la Pléiade, pour un certain nombre de lettres en tout cas. Donc nous n'envisageons pas pour l'instant de faire une demande de droit. Pour les collections privées, effectivement, la question se pose. Alors certains libraires que nous croisons dans les salles de vente nous donne l'autorisation de la reproduire avant que la lettre soit vendue. Pour d'autres, en revanche, ils nous recommandent de prendre contact avec le propriétaire et pour obtenir un document nous donnant l'autorisation de reproduire la lettre. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Et toi, Sophie, est-ce que dans ces questions de droit, il y a des choses spécifiques à Vernon Lee?
Alors, effectivement, pour l'édition papier, j'ai dû... mais c'était dans la phase où il fallait prêter des documents à la Bibliothèque nationale de France aux manuscrits qui avait une politique très très stricte tant que certains destinataires n'étaient pas encore tombés dans le domaine public, notamment Mary Robinson. Et là, oui, j'ai dû demander les droits aux ayants droit des destinataires. S'agissant de Vernon Lee, dès lors qu'elle est tombée dans le domaine public, la BNF a tout à numériser les lettres. Effectivement, c'est bien de souligner, ça me donne l'occasion de souligner aussi que le contact avec les familles est incontournable quand il y a, souvent s'il se fait à l'occasion de cette sollicitation de droit, mais c'est un contact qui peut être rugueux, hein, parfois, quand on a affaire à l'ensemble d'une famille et que on doit recueillir l'assentiment de toute une fratrie, etc., c'est parfois compliqué. Mais la lettre étant à l'intersection du public et du privé et du public, et quand on la publie, forcément, nous sommes des médiateurs, nous sommes réellement des médiateurs. Donc, je peux dire quelques mots de Samy. Oui. Samy travaille donc à l'Université ouverte de Londres, notamment sur un projet d'humanité numérique et qui concerne l'histoire du livre et de la lecture. Voilà, qui s'appelle Read It et Hoba. Enfin, il y a plusieurs projets, Read It étant un projet européen auquel Shafkat Tawhid, dont il est partenaire. Hoba, c'est le projet que Shafkat Tawhid dirige sur l'histoire du livre et de la lecture. Elle a récemment utilisé Hall dans deux publications, l'une que nous avons co-rédigée concernant l'un des manuscrits publiés sur Hall, enfin qui sera bientôt publié sur Hall, qui est déjà que nous sommes en train d'indexer sur Hall, Oak of Oakhurst, et l'autre, c'est une étude littéraire, et l'autre article a été récompensé dans un symposium d'humanité numérique. Il s'intitule ce travail On Links to Be, c'est-à-dire des liens à venir. Des liens à venir. C'est un travail mené avec nos homologues de Londres, de l'Université ouverte, les ingénieurs homologues de Richard Walter à Londres, et avec Sally, sur une indexation permettant d'envisager les documents en ligne sur la base, non pas tant comme, enfin, dans la perspective d'une critique génétique regardant vers le passé, hein, vers les prémices de l'œuvre, les germes, les prémices de l'œuvre, mais adoptant une perspective, un changement de regard, permettant de voir quelles œuvres ce sont, comment indexer les documents de manière à montrer les liens à venir, les liens d'œuvre, l'œuvre à venir, voilà. Non pas l'œuvre passée, mais l'œuvre à venir. Elle vous en parlera mieux lors des journées IMAN, c'est, voilà. Mieux que moi, parce que c'est quand même là véritablement un travail d'ingénieur, parce que je suis bien loin d'être.
Donc c'est une raison supplémentaire pour assister aux journées IMAN les 28 et 29 janvier.
Oui, j'aimerais rebondir sur la question finalement des usages de ces, puisque avec Sophie, vraiment avec ce projet Hall, on est bien dans tu as montré différents usages, alors bien sûr des usages donc patrimoniaux de ce projet numérique, de ces usages scientifiques, là avec les exemples que tu as donnés de Sally et les publications scientifiques et l'exploitation scientifique donc de ces archives éditorialisées sur IMAN, et puis aussi ces usages pédagogiques, c'est-à-dire à la fois sur le fond et à la fois sur le dispositif, hein, puisque tu as accueilli, enfin le projet a accueilli deux étudiantes l'année dernière. Qui suivait le cours de formation d'humanité numérique à l'ENS. Et ça montre, on appelle parfois ça en environnement numérique, mais là, un écosystème. Et je dois dire que je n'utilise pas souvent ce mot-là, mais je crois qu'on pourrait dire, là, oui, il y a une sorte d'écosystème numérique à la fois scientifique, pédagogique et patrimonial qui est absolument remarquable.
Voilà. Bien, s'il n'y a plus de questions, simplement je répercute une remarque donc de Richard Walter sur le fil de discussion qui nous indique qu'il est, je cite, hein, hors de question de faire de l'odorama sur IMAN. Voilà, ça sera remis à plus tard. Et voilà, et sinon, mais je vous remercie, hein, toutes et tous d'avoir participé à cette séance. Et je vous invite à la prochaine séance, hein, de ce webinaire. donc qui va se dérouler le jeudi 11 février de 14h à 16h. Nous aurons également donc trois intervenants, Irène Passeron et Alexandre Guilbeault sur les œuvres complètes de D'Alembert et D'Alembert en toutes lettres, et une seconde intervention de Isabelle Aumonon sur le projet Victorine de Chastenay.